C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. On continue notre série sur le livre de Jacques. Et la semaine dernière, je n'étais pas là, mais je pense que c'était Michael qui a apporté le message. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez, parce que dans cette série sur le livre de Jacques, on regarde les caractéristiques d'un homme, d'une femme de Dieu, d'un homme et une femme mûrs, telios, parfaits, accomplis de Dieu. Et est-ce que vous, je ne vous demande pas ce qu'on a regardé la toute première fois au mois de septembre, mais j'ose quand même vous demander le caractéristique d'un homme ou d'une femme accomplie, mûre, selon chapitre 3, versets 1 à 12 du livre de Jacques. Et tout le monde a le droit de répondre, sauf Michael. Parce que... Mais bon, je sais, même pour moi, parfois, je dois réfléchir. Est-ce que vous vous rappelez la troisième caractéristique d'un homme ou d'une femme mûre de Dieu? Comment, il ou elle, c'est ou peut, je ne sais pas si là c'est peut, mais est-ce qu'il, c'est quoi la différence entre pouvoir et savoir? En tout cas, l'homme ou elle, parce que je ne sais pas si vous avez vu la structure, j'ai choisi des pronoms. Et il y a une raison pour que j'ai mis il ou elle, mais c'est aléatoire plus ou moins, mais c'est pour un homme ou une femme. Et donc, elle ou il peut maîtriser sa langue. Chapitre 3, versets 1 à 12. Et aujourd'hui, on va voir la suite de ce passage qui est, en tout cas, chaque fois que je lis le début du chapitre 3, je prends cher. Et donc aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir discuter avec vous à propos de la suite de ces 12 premiers versets du livre de Jacques, chapitre 3. Donc on va les lire ensemble, 13 à 18. Et ça commence fort. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qui montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit des rivalités, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout le monde veut donner son avis. Les réseaux sociaux, les débats, les conversations du quotidien. Chacun pense avoir raison et chacun veut paraître sage. Mais au milieu de ce bruit, une question demeure. Qu'est-ce que la vraie sagesse? Et surtout, comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Et c'est exactement la question que Jacques nous pose au début de ce texte. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Et dans ces versets, nous voyons clairement qu'il existe deux sagesses. La sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Et donc, Jacques nous présente deux manières de vivre, deux chemins à suivre. Et c'est à chacun d'entre nous de décider lequel il ou elle veut véritablement, réellement suivre. Et donc, basé sur ces 6 versets, j'ai 4 questions pour nous ce matin. Je dis bien nous et pas vous. 4 questions pour nous tous ce matin. Et la première, bon, mais ça commence fort avec Jacques. Qui est vraiment sage? Qui est vraiment sage parmi nous? Et c'est intéressant parce que souvent, on a tendance à lier la sagesse avec quoi? Même Jacques, au verset 13, il lit la sagesse à l'intelligence. Donc, on a tendance à penser que quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Quelqu'un qui maîtrise le contenu de toute la Bible. Ou parfois, on pense que quelqu'un qui est sage, les personnes qui savent bien parler, qui impressionnent avec leurs paroles. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Quelqu'un de sage n'est pas forcément, nécessairement, quelqu'un de ce que le monde dit est intelligent, quelqu'un avec un QI important. Parce que, justement, Jacques explique par la suite ce qu'il veut dire au verset 13 en posant la question. Qu'est-ce qu'il dit, le 13b? Il pose la question, lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Pour Jacques, la sagesse ne s'entend pas. La sagesse se voit d'abord. Elle se prouve par une vie transformée, par une vie empreinte de l'humilité et par des œuvres meilleures que des discours. Et donc, dans la Bible, la sagesse qu'on y voit, c'est l'art de vivre comme Dieu le veut. Ou la sagesse biblique s'agit de vivre la vie telle que Dieu la conçoit. Et donc, un homme, une femme sage n'est pas celui ou celle qui impressionne, mais celui ou celle qui marche humblement et qui a une vie qui porte de bons fruits. Et c'est important parce que juste avant notre texte d'aujourd'hui, on a parlé de quoi? La semaine dernière, Michael, il nous a parlé de quoi? De la langue. Et qu'est-ce que révèle notre langue? Notre cœur. Notre langue révèle ce qui est dans notre cœur. Et si nos paroles blessent, critiquent ou divisent, c'est le signe d'un cœur qui manque de sagesse d'en haut. Et comme vous avez vu la semaine dernière, on ne change pas la langue sans changer notre cœur. La vraie sagesse commence dans l'humilité. Et qu'est-ce que c'est l'humilité? Qu'est-ce que c'est l'humilité pour nous en tant que chrétiens? L'humilité, c'est quelqu'un qui a la capacité de se voir tel qu'on est véritablement. Et qui sommes-nous véritablement? Nous sommes des hommes et des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est ça, l'humilité. Deuxième question, basée sur les versets 14 au 16, et c'est la question de d'où vient-elle la vraie sagesse? Mais dans ces versets, il parle de la fausse sagesse, ou la sagesse d'en bas, la sagesse qui ne vient pas de Dieu. Et il dit que cette sagesse-là, cette sagesse terrestre, se reconnaît à deux choses. Un zèle amer et une ambition égoïste. Autrement dit, la sagesse d'en bas est reconnue par la jalousie, la compétition, la volonté d'être au-dessus les autres, le besoin d'avoir le dernier mot, besoin d'être reconnu et besoin d'avoir raison. Et cette sagesse, dit Jacques, n'est ni spirituelle ni divine. Elle est terrestre, charnelle, et même, c'est soit le troisième qualificatif qu'il utilise au verset 15, il dit terrestre, charnelle, ou humaine, ou démoniaque. Wow! Mais c'est fort! Mais tellement juste, parce que quand l'orgueil prend la place, tout se dérègle. Là où il y a cette fausse sagesse, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. Alors, d'où vient la vraie sagesse? Ce n'est pas une question difficile. D'en haut, oui, mais encore plus précisément, de Dieu. La vraie sagesse vient de Dieu seul, et cette sagesse-là donne la vie. Jacques l'a déjà dit au début de sa lettre, chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ce n'est pas une formule très, très compliquée, ce que Jacques il nous dit. Et voici, pour moi, c'est très important. Enfin, pour moi, personnellement, la sagesse dans nous ne peut pas être fabriquée par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas fabriquer la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est donnée par Dieu lui-même. Elle nous est donnée quand nous la demandons en toute humilité, quand nous laissons Dieu transformer notre cœur et quand nous laissons Dieu transformer notre langue. Troisième question. Le fruit de la sagesse, comment le reconnaître? Jacques, il décrit la sagesse d'en haut avec une liste magnifique. Et on va le relire. La sagesse d'en haut est vue par ces qualités qu'on lit dans les versets 17. La sagesse d'en haut est pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et ce ne sont pas uniquement des qualités individuelles, c'est surtout des qualités relationnelles. La sagesse divine se voit dans la manière dont nous vivons les uns avec les autres. La sagesse du monde divise, la sagesse de Dieu unit. Elle construit, elle apaise et elle restaure. Et Jacques, il termine par un principe, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc j'ai dû cogiter un peu plus longtemps, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il le dit autrement, mais j'avais un peu de mal, et après je me suis dit, mais c'est ça. Ceux qui reçoivent la sagesse de Dieu deviennent ceux qui sèment la paix. C'est ça ce qu'il veut dire. Ceux qui reçoivent la sagesse de Dieu sèment la paix là où ils vont. Leur vie plante quelque chose de bon et de bien dans la vie en général là où ils vont. Et on regarde et on voit justement deux champs où ce fruit semé peut grandir. Donc d'abord, c'est dans nos propres vies. Plus nous laissons la sagesse de Dieu grandir dans nos choix, nous guider dans nos choix, nous guider dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions, plus nous devenons les disciples qui plaisent à Dieu, dans nos conversations, dans nos conflits même, dans nos relations les uns avec les autres. Et puis le deuxième champ où on voit justement l'action de cette sagesse ou le fruit de cette sagesse, c'est dans nos relations avec autrui. Une vie guidée par la sagesse de Dieu attire. Elle donne envie. Elle met en lumière quelque chose de différent, quelque chose de beau. Et en conséquence, les autres, autour des personnes sages qui sont dotées de cette sagesse d'en haut, elles sont attirées. C'est incontournable que cette sagesse qui nous est donnée de Dieu attire les autres. Quand j'étais à l'université, c'était une université militaire avant que ce soit ouvert au grand public. Et c'est une très grande université, 60 000 étudiants. Et notre équipe de foot américain, on est troisième dans la nation aux États-Unis, ce n'est pas important, mais là, on n'a pas perdu un match cette saison. Ce n'est pas important, mais ça n'est pas arrivé depuis 50 années. Bref, et dans le dortoir, ma première année, il y avait quatre étages. Et donc, les gars au quatrième étage, ils voulaient faire une piscine. Et donc, puisque c'était des dortoirs militaires, tout a été ouvert. Donc, il y avait un mur au milieu avec les pommeaux de douche. Et il y en avait six. Et il y avait quatre toilettes. Mais tout a été ouvert. Il n'y avait rien de fermé. Et donc, ils voulaient en faire une piscine. Et donc, ils ont bouché l'évacuation. Et ils ont bouché la porte. Et ils ont laissé couler l'eau pendant des heures. Après, ils nageaient. Après s'être amusés, ils ont dit, on veut partir. Ils ne voulaient pas attendre à ce que l'eau s'évacue. Donc, ils ont ouvert la porte et ils ont inondé tout le bâtiment. Donc, ils ont viré tous les étudiants de ce dortoir-là et ils ont fait venir les premières années. Donc, on avait tous 18 ans dans ce dortoir-là. Et il y avait quatre dortoirs et on faisait les guerres de cris. Et ça a toujours terminé, on a toujours perdu parce qu'ils ont dit, mais vous êtes bêtes, vous êtes les premières années. Et on ne pouvait pas dire, non, c'est pas vrai, parce que c'était vrai. Et je me rappelle, il y avait un gars de cru qui a frappé à notre porte. Il a dit, est-ce que je peux vous parler de Jésus? Je dis, oui, on est chrétien avec mon coloc. Je me disais chrétien, mais je n'étais pas encore chrétien. Et donc, après, il a dit, mais on va faire une étude biblique. Est-ce que vous aimeriez assister à l'étude biblique? Je dis, oui, pourquoi pas. Et donc, je me rappelle, la première étude, on a rigolé pendant une heure presque. Et il y avait le gars, c'était un autre gars qui est venu, il s'appelait James, donc Jacques. Je ne sais pas comment il nous a supportés. On était tout simplement bêtes. Il y avait un gars qui parlait tout le temps. Il faisait des blagues et moi, je rigolais à ces blagues à deux balles. Enfin, c'était pendant... Et on a fait ça pendant plusieurs semaines. On était 8 ou 9 gars. Peut-être il y avait un qui était chrétien, d'autres qui se disaient chrétiens, mais c'était vraiment un cirque. Mais James... Chaque semaine, il a préparé son étude. Ce n'était pas un gars qui était doté de la parole facile. C'était quelqu'un de vraiment très doux, généreux. Il avait toujours le sourire. Et je peux vous dire, avouer que je n'ai rien retenu des études bibliques. Mais avec chacun d'entre nous, il nous a toujours invités après aller boire un coup. Et chaque fois que j'étais avec lui, j'avais pas envie de partir. Ça émanait de lui une paix, une bonté, une joie qui n'est pas, qui est impossible de fabriquer humainement parlant. Et j'avais toujours envie. Chaque fois qu'il me téléphonait, tu vas aller boire un coup, j'étais là parce que j'avais envie tout simplement d'être avec lui. Pas pour écouter son grand discours. Mais juste parce que j'avais envie d'être avec cet homme de Dieu sage. La sagesse d'en haut voit et on voit son impact à travers les vies des personnes qui attirent ceux et celles autour d'elles. Dernière question en conclusion. Ce n'est pas la question la plus difficile. Ou peut-être que oui. Quel chemin suivons-nous? Jacques nous met devant un choix clair de sagesse, de chemin, deux types de fruits. Une sagesse produit la comparaison, la colère, la division, l'amertume. Et l'autre produit la paix, la douceur, la vérité et la vie. La question ce matin n'est pas « que savons-nous ?» mais « quelle sagesse guide véritablement notre vie ?» Il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités. Le Seigneur, il veut nous rendre sages, vraiment sages. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur veut nous rendre sages. Être ces personnes qui attirent juste par notre façon d'être, par nos paroles, les personnes qui attirent d'autres personnes à lui. Le Seigneur veut nous rendre sages, pas pour briller, mais pour aimer. Il veut nous rendre sages, pas pour gagner des débats, mais pour gagner des âmes. Alors, demandons-lui, comme Jacques nous a encouragé de faire depuis le début de sa lettre, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Transforme mon cœur. Dompte ma langue. Et fais de moi un artisan de paix. Amen. Et puisque on a un peu plus de temps, je me suis dit que ce serait une occasion de répondre devant Dieu, avec Dieu, par la puissance de l'Esprit, à ces deux questions de réflexion, ces deux questions d'examen. Première question, quelle sagesse guide réellement, pas juste parce qu'on est ici à l'église et on est entre chrétiens et on dit, oui, la sagesse d'en haut, mais quelle sagesse guide réellement ma vie en ce moment, celle du monde, jalousie, compétition, besoin d'avoir raison, ou celle d'en haut, pureté, paix, douceur, vie. Et deuxième question, en guise d'une application concrète de la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie, pas juste écouter, regarder dans le miroir et repartir, comme Jacques dit dans chapitre 1, mais regarder, et comment est-ce qu'on peut mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre ce matin. Donc la deuxième question, c'est dans quel domaine concret de ma vie le Seigneur m'appelle-t-il aujourd'hui à devenir un artisan de paix dans la mesure où je suis doté avec la sagesse d'en haut. Et je terminerai après ce temps de réflexion, d'examen avec une prière. Seigneur, je sais que le tout est lié, mon cœur, ma langue, mon comportement. Et Seigneur, je sais que de par mes propres forces, tout ce que j'ai à offrir au monde, c'est la sagesse terrestre, sagesse charnelle. Mais Seigneur, je sais que d'après ce qu'on vient de lire, que la sagesse d'en haut est disponible dans la mesure que dans ta grâce, tu veux me la donner. Que tu veux nous la donner. Et Seigneur, je vois de plus en plus jusqu'à quel point cette sagesse qui vient de toi est importante pour nous, tes enfants, dans nos vies de tous les jours. On est en continu en relation avec d'autres personnes et je vois que c'est très facile pour mon orgueil de prendre une place dans mes relations. Et Seigneur, c'est une recette pour l'échec total, pour le désordre et les mauvaises pratiques. Si je laisse la place à mon orgueil, mais Seigneur, en toute humilité, je te demande que dans ta grâce, tu nous dotes chacun avec cette sagesse qui vient de toi. Et que Seigneur, ça puisse être vécu, reçu, vu, expérimenté dans nos relations les uns avec les autres. Et que grâce au fait que nous avons reçu cette sagesse d'en haut, nos vies portent du fruit en toute humilité. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de chacun d'entre nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de chacun d'entre nous. Amen.